Merci à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Depuis cette semaine, j'ai ouvert une page pour la cellule sur Tipeee et vous êtes nombreux à avoir soutenu cette démarche par vos dons et vos messages généreux. Le moins que je puisse dire, c'est que ça m'a fait très très plaisir de me sentir comme ça soutenu, de sentir votre enthousiasme. Ne changez rien et surtout pas les montants de vos tips. Vous êtes au top. Alors pourquoi un Tipeee ? Jusque-là, je pouvais me payer le luxe d'éviter cette démarche et de ne pas me rémunérer pour l'intendance de la cellule. Ah là là ! Tous ces jeudis passés à monter des podcasts, à organiser des week-ends, à commenter les podcasts avec vous sur Facebook, à faire la promotion des jeux, des indés, à me réécouter, dire plein de conneries. Pendant 8 ans, je ne me suis pas payé pour ce travail parce qu'il bénéficiait aussi à mes jeux. Mais depuis peu, ma situation a changé. Concrètement, je n'ai plus autant de temps pour écrire des jeux. Et chacun pourra le comprendre facilement puisque je suis aujourd'hui l'heureux papa de 2 enfants. C'est une autre page de ma vie qui s'écrit et celle-là, elle ne paye pas, c'est plutôt l'inverse. Or, vous le savez, pour me rémunérer et rémunérer les autres intervenants de leur participation, mon écran vient de se mettre en veille. Ça te fait rire, toi ? Ça vous fait rire, le public, hein ? Ça vous amuse. Or, vous le savez, pour me rémunérer et rémunérer les autres intervenants de leur participation sur la cellule, je vous ai toujours encouragé à acheter mes jeux et les leurs. Seulement voilà, à part Vademecum et le Val 3, qui vont sortir dans je sais pas combien de temps, pour ma part, je risque fort de ne pas pouvoir en écrire d'autres avant un bout de temps. Il faut du temps, de la R&D pour créer un jeu quand on est un auteur et un éditeur sérieux, hein ? Pour les playtests, les retours, les relectures, tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, pour l'instant, eh bien, je préfère le consacrer à mes petits loulous. Le reste de mon temps, je vais donc vous le réserver. Le réserver à ces podcasts et à leur enregistrement. Par conséquent, je vous propose de m'aider en faisant un don via le Tipeee de la cellule. Les donateurs généreux recevront un lien vers, comme d'habitude, notre espace abonné. Et je me chargerai de le faire vivre chaque saison avec... enthousiasme, parce que bon, jusqu'à maintenant, il est resté un petit peu moribond, mais là, je vous jure, je vais mettre plein de trucs dedans, il y aura des podcasts en plus, ça va être la fête. Des photos, des vidéos, des conneries, il y en aura plein. Plus il y aura de pognon, et plus je pourrai me permettre de défrayer des invités prestigieux, plus il me sera facile de vous proposer du contenu de qualité, comme maintenant. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la cellule.
Hebdomadaire de la cellule.
Aujourd'hui, un podcast playtest un peu particulier dans lequel on va présenter la création de Natacha. Natacha Forel, salut.
Bonsoir.
Bonsoir. On présente aujourd'hui le rosaire écarlate.
C'est bon, je peux me barrer, moi. Je vais me coucher.
Alors, avec nous, pour en parler... Romaric, bonjour.
Coucou. La pêche, la patate.
La pêche, la patate.
Adrien Cahuzac.
Bonjour.
Emmanuel Messel.
Ça ne s'improvise pas, la présentation.
Non, ça ne s'improvise pas de faire le con. Hein.
Ça demande... Première meuf, voilà.
Ça demande beaucoup de... Yosei, salut Yosei.
Ah, il faut le micro, il faut
Coucou.
Le...
Coucou.
Ben, t'es pas mal. Et vas-y, continue.
Et c'est un podcast playtest un petit peu...
Et sinon, elle s'appelle Emmanuel aussi.
Oui, mais j'ai dit Emmanuel.
Pardon, j'ai pas entendu.
Le fil long
quand même.
Difficile.
Je sais que je suis fatigué, temps, que j'ai du mal avec long, les prénoms, mais ça me revient.
Bon.
Et c'est un podcast qui marche un petit peu sur la tête à plus d'un titre.
C'est clair.
Parce que, on enregistre tout après. On enregistre tout après, exceptionnellement, parce qu'on savait pas si ce serait podcastable.
Ah, mais vous criez carrément le fait que.
Oui. J'assume mon embryon de jeu.
Vous hackez complètement.
On contre-hack le podcast.
Mais du coup, Fabien, blague à part, si tu veux participer, c'est peut-être plus simple que je présente, non ? Je sais pas. Enfin, je te présente parce que t'as l'air d'être parti.
Non, mais c'est parce qu'en fait.
Ça m'amuse, honnêtement. C'est très drôle. Puis c'est bien parce que comme je suis à moitié je suis bien.
On est un animateur 50% Romaric, 50% Chuchen.
Ben voilà.
Et il est passé minuit aussi, hein.
Donc voilà.
C'est bien. Un petit jet de sobriété pour voir.
Oui.
moi au moins je suis 50% fatigue, mais aussi 50% Ildvine.
Bon, mais blague à part, en plus, je crois que ce jeu est un peu
comme
plus sérieux.
Tout en plus, donc bon.
Il demanderait peut-être un traitement plus sérieux, ce jeu, je crois. Enfin bon, bref. Donc Natacha, il est peut-être temps de nous présenter le Rosaire écarlate. Qu'est-ce que c'est, de quoi qu'il s'agit donc que le Rosaire écarlate?
Alors le Rosaire écarlate, c'est donc un jeu très fortement inspiré du Nom de la Rose de Umberto Eco.
Ah.
Puisque donc les... Alors oui, on a prévu aussi de faire le podcast sans spoiler. Voilà, je préviens.
D'accord.
Parce que c'est un jeu à secret.
D'accord.
Donc dans lequel les PJ vont jouer des novices dans un monastère dans lequel il va se passer des choses étranges. Un monastère moyenâgeux. Donc vraiment bien sûr le Nom de la Rose, nord de l'Europe. Enfin, nord de l'Europe. C'est pas dans le nord de l'Europe, mais en l'occurrence, oui. Nord de l'Europe, c'est pas dans le nord de l'Europe, mais... Dans le Rosaire écarlate, oui. Donc, il fait froid.
C'est où dans le nom de l'Europe?
Il me semble que c'est vers Toulouse.
C'est pas en Italie? C'est dans les montagnes.
Il me semble.
Fabien, faut peut-être te parler dans les micros.
C'est en Italie, il parle en italien plusieurs des.
Ouais.
Alors, des oui, d'accord, ok. J'étais persuadé que. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait une histoire avec Toulouse et le sud-ouest de la France, mais.
Bon, après, c'est pas loin.
Peut-être que les inquisiteurs viennent de là. Que Guillaume de Baskerville vient de.
Vient de là, peut-être.
Vient de là, ouais. Bon, bah, peu importe. Donc,
ah, mais attends, tu ne confonds pas Ligeoise, avec la BD Le Troisième Testament? Non,
y a ah pas non un... je ne te l'ai pas du tout. Ah,
d'accord, ok. Parce qu'il y a dans Le Troisième Testament qu'il y a une BD très inspirée justement du Nom de la Rose. Il me semble aussi qu'il y a un passage.
Nous avons du fact-checking en direct.
Qu'est-ce qui se passe?
Nous allons très
Fabien,
vite savoir.
Fabien, que fais-tu sur l'ordinateur?
Il fait du fact-checking.
Qu'est-ce que c'est que du fact-checking?
Bah, il check
quand les journalistes vérifient les informations.
Okay.
Nous faisons du journalisme sérieux ici, monsieur.
D'accord. Puisque le monde est à totalité.
Arrête de roleplayer le breton ivre, s'il te plaît.
Non, non. Alors, l'abbaye du Nom de la Rose, oui, je me souviens. Maintenant, ça me revient effectivement. Volontairement, il ne la situe pas précisément, mais c'est une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie. Donc, dans le nord de l'Italie.
D'accord.
Donc, voilà, sud de la France, nord de l'Italie, quelque part dans les Alpes, quoi.
Ouais, bah, j'étais persuadée qu'à un moment donné, il y avait une histoire de sud-ouest de la France.
Sud-ouest.
De la France.
Bon, et Fabien, ça serait cool que tu viennes prendre un micro quand même, parce que...
Bon, peu importe. Oui, de toute façon, nous, ça se situe plutôt dans le nord de l'Europe, puisqu'il donc, il fait en permanence plutôt froid, humide, soit brouillareux, soit neigeux, soit pluvieux. Et donc, il va se passer des choses un peu étranges dans ce monastère, et les novices vont découvrir petit à petit des choses étranges. J'ai aussi pour but que... l'autre... source d'inspiration, c'est les pensées de Pascal. Et j'ai aussi envie d'en faire un jeu sur l'hésitation. Alors bon, je suis désolée, l'hésitation entre l'angélisme et la bestialité, donc en référence à la fameuse phrase. Alors je sais plus c'est quoi le début, mais ça se finit par le malheur est qui veut faire l'ange fait la bête.
D'accord. Phrase qui est dans les pensées de Pascal.
Voilà. Donc, je ne sais plus quel fragment. Désolé, hein, je suis français, mais je ne les connais pas par cœur.
Je considère que c'est de la philosophie, Pascal. Pas des lettres. Mais voilà, c'est.
On pourra faire un podcast Pascal.
On pourra faire un podcast Pascal.
Mon ami Jean-Pascal.
Bon, puis on s'en fout, tu vois. Enfin, je veux dire, dans tes cas.
Avec des en chocolat et tout.
Et c'est super bien écrit. Enfin,
oui, dans... on peut le faire à Pâques, effectivement.
Agitateur, provocateur.
Enfin, bon, dans tous les cas, voilà. C'est un super écrivain.
Voilà, et donc je ne suis pas croyante moi-même, mais je suis particulièrement touchée par ces problématiques sur l'éternité, sur.
C'est absolument génial.
Vraiment sur les questions d'éternité, d'infini, et de vanité de l'être humain et de la condition de l'être humain.
Carrément.
Voilà.
L'homme est piégé entre deux infinis, infiniment grand, infiniment petit et tout ça. Enfin,
c'est ça.
L'infiniment con.
Prends le micro, Adrien.
Prends le micro. Surtout pour dire des conneries infiniment belles comme ça. Pour dire des conneries infinies, ça vaut le coup.
Et donc, du coup, il y avait forcément des problématiques morales. Et donc, j'aimerais bien que les PJ soient confrontés à des problématiques morales, un peu à la manière de Dogs in the Vineyard, qui est une autre inspiration.
Source d'inspiration.
Voilà. Je pense. Est-ce que j'ai.
Donc, tu veux faire un jeu à secret? avec du Dogs Inside. En gros, t'as joué à Dogs, tu t'es dit, ah, c'est bien ce jeu, mais il manque un peu de secrets.
Mais il manque des secrets.
Et puis, bon, bah, j'aime bien Umberto Eco, et puis j'ai envie de faire voilà. du.
Et
un
en
petit
fait,
peu de Pascal.
C'est parti d'une autre source d'inspiration, mais qui là, cette fois-ci, est vraiment, vraiment spoilante, et donc je ne peux pas citer.
D'accord. Bon. Ok, bon alors je fais semblant de dire c'est parti, on joue ou on débriefe tout de suite Bon allez, on débriefe tout de suite puisque vous savez, la partie a été faite.
Alors
été faite
du coup, avant. Tu veux que je parle du système un peu
Alors il faut que tu me parles du système, effectivement, est-ce que c'est un jeu de rôle classique et puis aussi du système de résolution s'il y en a un. Donc, le système.
C'est classique au sens où je suis MJ, enfin hein, jusqu'à présent, après quand ce sera publié j'espère il y aura d'autres MJ.
D'accord,
donc, ok. Il y a des MJ,
non, non, j'ai eu peur parce que tu me dis, pour l'instant je suis MJ, sous-entendu ça peut changer au cours
non,
du
non,
jeu.
Non,
donc,
non,
voilà.
Ça, non.
D'accord, ok.
Et donc avec PJ joueur,
ils jouent chacun un personnage.
Ils jouent chacun un personnage. Voilà. Ça se résout au D12.
D12, très bien. Très bon choix pour commencer.
Et après, je passerai au système sans D, c'est ça.
Quand j'ai demandé à tout à l'heure de quoi on avait besoin, elle m'a dit un D12 parce que j'ai pas réussi à trouver de D7.
Voilà, malheureusement, ça n'existe pas.
Non.
Et donc, quand les. Donc, il y a deux listes de caractéristiques, les vanités et les constances. Les vanités, donc, qui sont. En fait, à chaque fois, c'est des traits qui peuvent servir dans des. Les vanités, surtout, sont des traits qui peuvent servir dans des conflits. Je suis particulièrement fort, je suis particulièrement beau, je suis particulièrement. Je sais pas. Voilà. Et chaque vanité, donc, est associée à un péché. Enfin, sachant qu'un péché peut revenir pour plusieurs vanités.
D'accord.
Ça, on en discute à la création de personnages. Donc, par exemple, si je suis particulièrement fort, moi, je considère que c'est associé à la colère. Voilà.
D'accord. Hein, tu vas pousser tes personnages pour réussir des conflits à commettre des péchés.
Exactement.
Sachant qu'ils jouent des novices. Donc, on rappelle, un novice, c'est pas au sens de débutant. Hein, ce sont des apprentis.
Oui,
moines.
D'ailleurs, ils peuvent tout à fait jouer des personnages plutôt âgés qui ont déjà été mariés, qui sont passifs. Ouais. Et en face donc, de ça, ils ont des constances qui, cette fois-ci, sont, donc, qui ne serviront pas dans les conflits, enfin, qui ne serviront pas à améliorer les jets de dés, en tout cas, ou à influencer sur les jets de dés, qui sont cette fois-ci associés aux vertus chrétiennes, justice, tempérance, etc.
D'accord, oui.
Et donc, quand il y a une situation problématique, un conflit au sens large, première chose que je vérifie, c'est est-ce que quand le PJ prend la décision d'agir, est-ce qu'il n'enfreint pas une règle mineure du couvent, par exemple ?
Ah oui, il y avait des règles dans le couvent, je m'en souviens de
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
T'as pas encore dit ça ? Si, tu l'as dit ça ? Non, t'as pas encore dit. C'est important, c'est pas important, c'est faut
ben,
pas le dire.
Moi, j'essaie de l'expliquer dans l'ordre où.
D'accord, ok, excuse-moi.
Mais ça se trouve, c'est pas compréhensible. Enfin, je sais pas.
Là, pour l'instant, c'est très clair.
En gros, là, t'es juste en train d'évoquer un point de règle que tu préciseras plus tard. Voilà, il y a des règles du couvent.
Ouais.
Et voilà.
Oui, mais ça, c'est. Je me souviens que c'était une dimension importante.
Donc, par exemple, une règle mineure, c'est ne pas, enfin, éviter de sortir du couvent. Voilà, et donc, elle a été enfreinte pendant la partie justement.
Bouce mal.
Donc, dans ces cas-là, enfin, quand le PJ choisit d'agir, il perd d'emblée un point de pureté. Il y a une jauge de pureté qui commence à 7 et qui diminue au fur et à mesure, ou qui peut augmenter, réaugmenter d'ailleurs, qui diminue ou qui réaugmente au fur et à mesure
du scénario.
Sachant
de la partie.
Le maximum, c'est 7. Et qu'il faut avoir au minimum un point de pureté pour devenir oblat, qui est donc le rang supérieur dans le couvent.
D'accord.
Donc un point de pureté si jamais il y a une règle qui est enfreinte, et ensuite donc le jet, je définis la difficulté, une difficulté moyenne, c'est, enfin, de base c'est 7, et ça augmente en fonction des circonstances.
Il faut égaliser, si je fais 7 sur mon D12, j'ai réussi.
Exactement. Et si ça n'est pas égal, eh bien je peux choisir d'utiliser une de mes vanités qui correspondrait, soit je choisis de l'utiliser. Après le jet de dés, hein. Soit je choisis d'utiliser, dans ce cas-là je perds un point de pureté et je résous le conflit, soit je fais le choix conscient de ne pas l'utiliser, j'ai la constance correspondante, je peux mettre en valeur une constance, dans ce cas-là je regagne un point de pureté. Soit je choisis de ne pas l'utiliser et je n'ai pas la constance correspondante, dans ce cas-là je crée une constance correspondante.
D'accord.
Et à la prochaine fois que j'en aurai besoin, je pourrai gagner des points de pureté.
D'accord.
Soit Non, je crois que c'est. J'ai fait tous les soirs.
Oui, non, mais je vois.
Moi aussi, je suis fatiguée.
Si tu acceptes de perdre un conflit, mais que c'est voilà. en adéquation avec une vertu chrétienne, en gros, pour faire ça. Oui, ça va, j'ai perdu il y a moins d'une demi-heure. Donc, du coup, tu gagnes des points de pureté. Et oui. en fait, ce qui te coûte, c'est de réussir. C'est ça ?
Ouais.
Parce que finalement.
Voilà.
Alors, juste un truc qu'on n'a pas précisé.
Si le dé te fait réussir, ça ne te coûte pas. C'est si tu, si tu ne peux pas réussir avec juste le dé et qu'il te faut des petits points en plus.
Oui,
là, et que tu le acceptes de gagner quand même, ça te coûte.
Tu peux aussi créer la vanité correspondante si jamais tu as besoin de la vanité.
Il y a un truc hyper important qu'on n'a pas dit, c'est est-ce qu'il faut faire au-dessus de ta difficulté ou est-ce qu'il faut faire en dessous ? Quand tu dis difficulté 7 avec le D12, il faut faire au-dessus pour réussir.
Au moins égal à la difficulté, c'est parce que
j'ai dit égaliser tout à l'heure, mais je veux dire égal ou au-dessus.
Si je peux me permettre, il y a quelque chose qui n'a pas été précisé, c'est qu'en fait, les vanités, on a un petit nombre de points à mettre dedans. On a 3 vanités, 7 points à répartir. Et c'est ces petits points qui nous aident à additionner au jet de dés à passer la difficulté.
Ok. Donc, dans le doute, dans Monostatos, quand vous ne savez pas combien de points, c'est 5. Dans Sens, c'est 6. Et dans ce jeu, c'est 7. C'est
exactement.
Ça on va faire une suite. Y a pas dans l'agence, il n'y a pas un truc comme ça ?
Dans l'éveil, c'est 4.
Dans l'éveil, c'est 4. Voilà, c'est ça. On va tous les faire, tu sais.
La personne qui va se taper de faire le jeu où c'est 1.
Attention, elle ne dit pas ça à Adrien.
Attends,
parce que...
mais le jour où on arrive à 73, par exemple. Tu vois,
Non, mais oui, ça va. Ça, c'est, ça se fait. Au moins, tu as de la souplesse. Personne qui fait un jeu où tu mets un trait.
Avec un point à répartir.
Minimaliste.
Là, le positionnement du jeu, quoi. Tu fais rien. Dans ce jeu, on fait rien.
Alors, ne ris pas parce que moi j'ai justement peur que mon jeu encourage à ne rien faire, mais on en rediscute.
C'est pas un projet complètement fou à une époque, Romaric.
Oh là,
le titre du jeu, en fait, le titre du jeu c'était
Ensemble vide.
Ouais, ou c'était juste.
Zéro. Oui, voilà, c'est ça.
On peut pas le dire, quoi.
Oui.
Et il y avait un truc où t'avais des gens qui étaient dans une pièce et il fallait faire 100 sur avec un dessin pour arriver à réussir son action. Sinon, tu sortais et les mecs pleuraient, je sais plus trop quoi. Enfin, t'avais un truc de folie.
Oui. Bon, bah, on ne parle pas de.
Depuis, arrêtez le shit.
Bon, on ne parle pas des vieux trucs, mais blague à part, ce jeu sur le vide, j'ai toujours envie de le faire. Et
non, ce serait cool.
J'ai toujours envie de le faire. C'est toujours... Bon, bref, mais on ne parle pas du tout. On est diverge, complètement là, on à côté diverge, de la plaque, hein. C'est ça. Verge. Ouais, j'en étais sûr. Allez, on passe à autre chose. Donc, du coup, on voit bien hein, le système. Là, pour moi, il est très très clair. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, les tabous du couvent, enfin les tabous, les interdits.
Alors, je peux vous relire la règle qui figure sur la fiche de personnage. Donc, quiconque entre ici se doit de prier pour un autre que soi. Donc effectivement, à la création de personnage, on se crée un proche qui a péché ou qui pêche. Voilà. Et donc, si jamais...
Prier pour un autre que soi.
Voilà. Et donc, la prière va correspondre... Enfin, la pureté va aussi avoir un impact sur l'âme de ce proche.
Ah oui, je m'en souviens. Putain,
d'ailleurs, la troisième règle, je lirai la deuxième après, j'expliquerai. Nos aimés pour qui nous prions souffriront de nos péchés. Et donc, dans la fiction, il y a la chapelle des vœux, où les novices, en entrant au couvent, allument un cierge. Et ce cierge, donc, va évoluer en cours de partie, en cours de campagne même, en fonction de la pureté des PJ, quoi.
D'accord, ouais.
La deuxième règle, donc, c'est aimons nos pères plus que nous-mêmes, pères avec un P majuscule. Donc, à côté du monastère, il y a un village qui est plus ou moins en relation avec le monastère, donc qui voue une espèce de crainte respectueuse au monastère. Avant d'entrer au monastère, les PJ doivent passer quelques semaines dans le village.
Non, ça y est, il y a tout le... Parce que bon, j'ai joué au jeu de Natacha en fait par le passé, dans une version précédente, et il y a tout qui me revient dans la gueule, la fiction et tout, c'était terrible. Voilà, vas-y, je t'en prie.
En plus donc, de passer du temps dans ce village, il faut choisir un père. En général, c'est la personne qui vous accueille. Donc quelqu'un avec qui vous allez être plus lié dans le village, pour qui vous allez prier également.
Quand tu dis que vous devez vous le choisir, est-ce que c'est le joueur qui le choisit ou c'est le personnage ?
Le joueur à la création de personnage.
D'accord.
Et dans les premières scènes du scénario et de la campagne...
pourquoi tu poses cette question?
J'ai encore une question. En fait, quand tu disais vous le choisissez, en fait, est-ce que c'est dans la fiction ton personnage qui le choisit? Ou est-ce que c'est le joueur le choisit?
On n'a pas joué comme ça ce soir. Après,
Non, c'est une question vraiment parce que c'est un point qu'on n'avait pas abordé quand on.
C'est un choix de joueur, quoi. C'est pas tant un choix.
C'est un choix de joueur.
En gros, c'est
pas besoin que ce soit roleplay.
Tu choisis et c'est. Ouais. Est-ce que c'est parce que l'abbaye te l'imposait? Est-ce que c'est parce que t'es tombé chez lui et du coup c'est lui?
On peut se poser la question, mais pour l'instant, c'est pas.
Je soulève la question. Ça vaut le coup d'être.
Natacha, prends en note.
Alors moi, j'ai une petite suggestion sur ce choix de père. Tu nous as demandé de faire un monologue dans lequel on raconte la scène.
Alors en fait, oui, il faut pas. Pardon.
Je pense que ce serait plus économe et peut-être plus facile de juste dire comment la personne. On s'est lié à la personne, tu vois, sans avoir à poser. Parce qu'un monologue, c'est quelque chose quand même de plus exigeant, parce que tu es obligé de décrire, tu es obligé de raconter, tu vois. Juste dire. En fait, dis-nous comment ça s'est passé. Un peu comme dans, je pensais à un moment, Adrien a un super conseil pour Blistage, et qui va là pour beaucoup de jeux. Dire, s'il y a quelqu'un avec lequel t'as une forte relation, dis simplement quelle est la relation au moment où tu le revois.
Là, alors, en fait,
la sensation que c'était un petit peu la même chose, juste raconter qu'est-ce qu'il vous lit, quoi.
Moi, je pense qu'il aurait fallu en fait que je joue ce père. On ait un vrai dialogue, tu vois. Là, ça s'est pas passé comme ça. C'est plus vous qui avez raconté, et du coup.
Moi, de ce que je sais, ce qu'il y a derrière. En fait, dans Blistage, les relations vont être amenées à se construire. Là, dans le Rosaire Écarlate, il faut que cette relation soit forte dès le début. Donc, il faut que cette scène soit jouée et qu'elle prenne du temps et de l'émotion.
N'oublie pas que ils souffriront pour nos péchés, donc. Je sais, je t'en prie. Hein.
Oui, si on en a commenté ce passage-là. Alors après, c'est peut-être du détail, hein, mais c'est vrai que du coup, quand on doit définir un moment fort avec notre père, on a le choix entre lui avoir sauvé la vie, qu'il nous ait sauvé la vie, ou qu'il soit passé quelque chose de...
Vous pouvez vous être battus ensemble, avoir fait un acte de sang...
Battus l'un contre l'autre, ou battus contre un ennemi commun.
Battus contre un ennemi commun, oui.
D'accord. Et je trouve que c'est un peu difficile... C'est bizarre, ne serait-ce qu'à trois joueurs, mais de faire qu'en trois semaines, dans le même village, il soit passé trois trucs de ouf, qu'il y ait eu trois fois quelqu'un qui la vie sauve, ou... Je sais pas, on a peur peut-être d'être trop... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Parce que ça doit avoir lieu dans la semaine d'arrivée, c'est ça?
Non, ça peut avoir lieu la veille de l'entrée au couvent. Ils y passent grosso modo un mois, enfin 3-4 semaines, quoi. Et ça peut avoir lieu dès le choix, en fait, enfin, dès le premier jour, ou dès la rencontre, ou bien pendant les 3 semaines, à un moment donné, peu importe, ou bien la veille de, par exemple.
Mais après, c'est peut-être moi qui me pose trop de questions de crédibilité aussi là-dessus, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que dire qu'il y en a deux qui se sont battus ensemble de manière assez machin, les autres qui ont une adversité commune et un où il y a quelque chose, un accident qui a fait qu'il a failli mourir, enfin, ça fait beaucoup.
Emmanuel ?
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas envisageable du coup que nos persos les connaissent d'avant, que ce soit par exemple un ami d'enfance ou sur lequel ils auront s'appuyer presque plus facilement ?
Parce que les villageois, tel que je le comprends, les villageois connaissent un peu plus le couvent que vous.
D'accord.
Je veux que les novices aient quand même le moins possible de liens avec le couvent avant de...
Qu'ils débarquent, quoi, vraiment.
Surtout, il y a la notion qu'ils débarquent, effectivement, et qu'à cette époque, on voyageait pas tant que ça. Donc, vous qui venez d'une région...
Les voyages sont dangereux.
Alors, pour répondre à Yosei, je pense qu'il faut, faire la part des choses entre on s'est battu l'un contre l'autre, et c'était un combat héroïque au sommet d'une colline pour un...
Alors c'est vrai que je l'ai présenté un peu comme façon manga, où ils finissent les deux dans l'herbe, se féliciter l'un l'autre.
Ça peut être un combat d'ivrogne à la sortie d'une... Tu vois, après avoir picolé, et puis à la fin, on se rend compte que c'était stupide.
Si t'as joué à Blistage, il faut voir ça comme les intensités dans Blistage.
C'est des moments particuliers dont tu vas te rappeler tout le temps... Tu vois, par exemple, je peux toujours me rappeler,
Non, mais là, on arrête le podcast, tu sais, il vient de dire qu'elle n'avait pas joué à Blistage.
Ouais, voilà.
J'espérais pouvoir y jouer ici, je te dis.
Non, mais tu vois, il y a des moments très forts dont on peut se rappeler, genre avec Romaric, je pense, le commercial, on va s'en rappeler, si tu veux.
Oui, je pense.
C'est des événements forts, on a rigolé ensemble pendant 5 minutes comme des cochons. C'est des événements qui restent, et c'est un petit peu cette idée-là. C'est pas forcément des moments extraordinaires, c'est juste des moments forts.
Mais c'est vrai qu'en une semaine,
je me suis sentie
s'attacher à des gens comme ça.
Obligée de faire. En fait, en trois semaines, il faut trouver un sujet.
Je me souviens qu'on avait eu cette difficulté-là. Peut-être faire en sorte, tu vois, une petite règle à la con, genre, il y en a un qui vient de ce village-là, même si ça peut. Tu vois, il l'a quitté quand il était tout jeune ou ses parents vivaient là.
En fait,
Il y en a un que le village a aidé après qu'il ait monté la montagne, tu vois, tout de suite. Mmh. Il arrive dans le village, il est aidé, comme ça, ça fait... C'est peut-être des espèces de règles comme ça, penser en amont, mais c'est, enfin, c'est même pas obligatoire.
C'est vrai que, quelque part, excuse-moi, mais je trouve ça aussi important qu'ils nous connaissent en tant que novices. L'attachement n'est pas le même quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que tu as 3 semaines à passer ensemble et qu'après, il est voué à partir... quelque part que quand tu l'as rencontré avant dans un autre contexte peut-être, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Pour moi c'était, vous l'avez rencontré dans ce contexte là.
Voilà. Attends, mais le village il est en contrebas du monastère.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais non, mais c'est peut-être moi qui me suis sentie limitée peut-être dans la façon de présenter les choses, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment que ça soit un peu extraordinaire et comme je disais, voilà.
C'est comme les paysans en fait qu'on voit dans le dans alors moi je suis désolé, j'ai pas lu le livre d'Umberto Eco, hein, tu sais que. Et donc j'ai vu le film et effectivement en bas du monastère dans Le Nom de la Rose, il y a ces fameux paysans.
Voilà, ils ont moins de lien avec le monastère que ce que j'imagine moi pour le Rosaire écarlate, mais oui, c'est il y a cette idée là, ouais.
D'accord.
Après et puis ils sont aussi un peu dans des conditions moins misérables quand même, ils ont
les villageois sont dans des conditions moins misérables que ceux
dans le Rosaire que dans le film de
d'Umberto Eco, d'accord.
Après... pas d'Umberto Eco du coup. De,
pardon, de je sais qui est-ce qu'il a c'est Jean-Jacques Hano, non je crois.
Non. Je crois que c'est... Il me semble que c'est Jean-Jacques Hano, effectivement.
Ça y est.
Notre journaliste online va vérifier l'information.
Après, comme je disais, c'était vraiment pour faire mâcheuse. Enfin, c'était un peu quand même pour faire mâcheuse, hein, cette réflexion-là. Enfin,
Ben voilà, ça y est, on a un point de vue ensemble.
En même temps, vous êtes là pour ça.
C'est vrai. Jean-Jacques Hano, sorti en 1986.
Sorti en 1986, réalisé par Jean-Jacques Hano, avec dans le rôle principal, le Sean Connery.
Sean Connery, ouais.
Et Christian Slater.
C'est bon, t'as
oui, c'est
fini
bon,
de
fini
ta
oui, c'est bon.
Ouais. Je peux enchaîner, merci. Donc ouais, non, c'est vrai que ça a été un passage pas facile, moi, en tant que joueuse. J'ai trouvé que c'était compliqué de trouver et de décrire.
Mais on s'en est sorti avec brio.
Avec brio, c'est OMG de nous le dire,
parce
mais
que
on s'en
génial.
Est sorti.
Fabien, ton opinion ?
Adrien, pff, connard, il m'interroge alors qu'il est à l'autre bout de la pièce.
En fait, j'étais en train de regarder, je me souviens mes parents m'avaient emmené à l'endroit où a été tourné en Hesse, a été tourné une partie du...
Il n'y a pas la tour.
Et alors, tu étais grand ? C'était,
Non, j'étais grand, c'était rigolo.
Il n'y a pas la tour ?
Ton papa était...
C'est ça qu'il faut dire, il n'y a pas la grosse tour. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il fait? On se croirait chez Jacques Martin là. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa?
Mon papa
et ta maman?
Il est retraité. Mon papa.
Donc ton
avis.
Est-ce
qu'on pourrait se concentrer
Fabien,
un peu?
Fabien.
Tu veux que je fasse mon débriefing
Non.
Complet.
Pour l'instant sur
les villageois.
Les liens avec les pères.
Est-ce que tu trouves que c'est difficile?
Moi c'était cool. Parce que en fait.
Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé concrètement pour vous ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme lien avec les villageois ? Comment ça s'est passé ? Yosei. Parce que ça va être important pour la suite, je pense.
Alors moi, c'était Gontran le boulanger.
D'accord.
Donc c'était un homme d'à peu près mon âge, donc une quarantaine d'années, qui était veuf depuis peu.
Je précise que j'impose que les villageois, enfin les pères, soient du sexe opposé au personnage.
Du sexe désiré, non ?
Ou du sexe désiré.
Convoité.
Ouais, convoité.
Ouais.
J'ai dit convoité, mais ça peut désirer.
Histoire de pousser encore plus vers le péché. Quoi.
C'est ça.
Ouais.
Du coup, voilà, c'était un homme un peu au bord du suicide parce qu'il avait perdu sa femme il y a peu, il élevait ses enfants seul, travaillait beaucoup, blabla. Et donc, les 3 semaines que moi, ma personnage, comme caractéristique, elle a espérance toujours positive.
D'accord.
Donc les 3 semaines que j'ai passées chez lui, j'ai repris un peu son foyer en main, en toute amitié. Mais voilà, redonner un peu de la joie de vivre à ce foyer-là. Et techniquement parlant, je lui ai sauvé la vie par le biais de l'empêcher de commettre l'irréparable, surtout le péché du suicide.
Suicide,
quoi.
Ah, bien voilà. Joué. Okay.
Et on est devenu frère
nickel,
de sang le jour avant de partir, parce que je lui ai fait la promesse que...
D'accord.
La promesse que, bah, une fois que je serai partie, bah, je serai plus là, comme on dit. Donc de se trouver quelqu'un d'autre pour... Bah pour reprendre cette dynamique positive et pas retomber voilà, dans le désespoir. Et donc, comme des gamins, on s'est entaillé le doigt, on a échangé le sang, disant quitte à se faire une promesse, autant se la faire comme il faut.
Voilà. D'accord, ok. J'ai pas hâte qu'on se promette quelque chose, Yosei. J'ai pas envie de me tailler le doigt. Fabien, est-ce que tu pourrais
alors,
me dire...
Alors, mon personnage, mon personnage, donc, il faut savoir qu'il avait une béquille, il avait une patte folle. Ça se fait rigoler.
Parce que j'adore tes personnages à chaque fois, c'est des boiteux. Ça... Je t'imagine déjà en train de le jouer. Je t'imagine déjà en train de le jouer.
En train de boiter. Et donc, il priait pour sa sœur Marie, qui était une sorcière.
Et en fait, c'est important ça parce que moi j'ai rencontré une vigneronne qui s'appelait Bénédicte, qui avait une vingtaine d'années, parce qu'elle m'avait sauvé de gamins qui voulaient me défoncer parce que je boitais, qui voulaient notamment me lapider en fait.
Par jeu et par haine.
Voilà. Et c'est important parce qu'en fait, une part de ce qui a été cool dans la relation avec ce personnage, c'est que Natacha l'a fait être accusée de sorcellerie, justement pour répéter l'un et l'autre. Donc.
Ah, elle est contente d'elle. Les auditeurs le voient pas, mais elle a senti le sourire. Alors là...
je lui apprends un sourire.
Ah, oui.
j'aurais aimé prendre ça en photo.
T'es le son porté. Hein.
Donc non, ça c'était vraiment cool. Et puis bon, spécifiquement sur cette scène, hein, j'ai déjà dit, moi j'avais trouvé le monologue un petit peu difficile à sortir pour moi, à déballer mon machin. C'était peut-être parce que j'étais fatigué aussi. Voilà.
D'accord. Emmanuel.
Alors moi, pareil, s'il faut que je remonte un poil plus haut pour expliquer la scène. Donc l'idée, c'est que ma fille... est tombée amoureuse d'une saleté de comédien de théâtre, ce qui se fait pas vu le
ça se fait pas
ça se fait pas
ça se fait pas
ils sont excommuniés
voilà.
Ça se fait pas
et donc elle est tombée enceinte et elle s'est enfuie avec lui et donc mon père
c'est un peu du tout
donc avec la personne avec laquelle j'ai fraternisé est Henri le bourgmestre du village donc et Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ?
Il a failli faire des bêtises.
D'accord, il a failli faire des bêtises. Bon, bah, il va se tenir tranquille maintenant, oui. Ça suffit. Hein. Vous êtes insupportable.
Fais attention à tes pieds. Et c'est tout simple, il y a une multiprise sous la table, d'accord ? Ouais. Et je me souviens d'un podcast horrible, où, alors qu'on était en plein podcast, il y a un gogol, on ne citera pas son nom,
Maxime.
Qui a appuyé sur la prise et qui a tout foutu en l'air.
Il a eu la bonne idée de le faire
là,
au moins au début
du podcast, refaire.
Alors que là, Adrien a failli le faire à la moitié du podcast. Bref, et donc, si je peux me permettre de terminer, Adrien, c'est bon, merci. Donc, l'idée, c'est que le saltimbanque a eu la très mauvaise idée de repasser par le village. Et donc, Henri m'a aidé à le jeter dehors avec perte et fracas.
Mais c'est pas mal quand même, tu vois, je trouve que ça le fait bien quand même. Ouais. C'est vrai que sur le papier, ça paraît dur. En 3 semaines, créer des liens comme ça. Et finalement, ce que vous faites, c'est assez cohérent, je trouve.
Il faut je crois qu'il faut préciser, pour donner une meilleure idée du groupe, que les deux personnages de Manu et de Yosei avaient 40 ans toutes les deux, et que le mien avait 19 ans.
D'accord.
Donc preuve qu'on peut jouer des personnages de tous âges comme novices.
Très bien. Est-ce que vous pouvez...
Juste termine sur les règles du couvent.
Je t'en prie, Natacha. C'est vrai, on n'a même pas fini.
Donc c'était pour situer qu'est-ce que c'était les pères, en fait.
D'accord. Ouais.
Donc la deuxième règle, c'était aimons nos pères plus que nous-mêmes. Ensuite, nous avons, pour leur salut, n'ayons plus de contact terrestre avec eux, en parlant de nos aimés, cette fois-ci, donc nos proches. Donc là, c'est un interdit majeur du couvent. Une fois que vous entrez au couvent, vous n'avez plus de contact direct, donc physique. Vous pouvez vous échanger des lettres, par exemple, mais plus de contact physique avec les proches que vous avez quittés à l'extérieur du couvent. Enfin, pas le village, mais en tout cas, que vous avez laissé dans la ville d'où vous venez.
D'accord.
Il est facile, mais vain, d'user de nos qualités. Donc les qualités renvoient aux vanités, voilà.
Bien sûr.
Acceptons notre faiblesse, nous gagnerons en pureté. Ça paraît à peu près.
C'est en fait c'est les règles du jeu, enfin traduites en monastère.
Exactement.
Mais, si j'ose dire.
Et enfin, si nous sommes anges, nous passerons du monde. Si nous aimons le monde, nous renoncerons aux anges.
Bon, ça c'est un peu une annonce de ce qui vous attend finalement.
Voilà.
En adoptant l'une ou l'autre des positions.
On peut noter que c'est carrément chouette et bien écrit et vachement élégant.
Alors si tu le dis aussi faiblement dans les micros.
Nous noterons, mesdames et messieurs, la poésie et la beauté de la formulation.
Eh ben, on voit que t'as épousé un saltimbanque, hein.
Tu veux pas retourner boire du jus de
T'es marié?
Bah, elle vit pas dans le péché, enfin, je veux dire.
Excellent. Bon, bah voilà, donc c'est une manière aussi élégante, je trouve, d'imprimer à la fois au personnage et au joueur les règles du jeu, en fait.
Je précise qu'elles sont à la fois sur les feuilles de perso, ces règles, et dans la chambre des novices, puisque j'ai imaginé, alors là c'était pas le cas sur les feuilles que vous aviez ce soir, mais j'ai imaginé que la feuille de perso ressemblerait un peu à la cellule, à la chambre du novice, donc avec les règles affichées au mur. Et donc, ils ont aussi chacun une rose blanche, sauf un pétale qui est rouge. Voilà. Et donc, on leur dit que, voilà, ils ont cette rose qui est là, qui va petit à petit évoluer avec leur angélisme. Mais on ne précise pas plus quand ils arrivent au couvent.
Très bien. Les mots sont une prison. Hein.
Et donc voilà. Et donc sur leur table à côté, ils ont la lettre une lettre qui symbolise leurs proches. Et donc ça correspond à la phrase sur la fiche de perso. Un objet que leur père leur a donné. Quelque chose qui rappelle aussi qu'ils sont redevables du monastère. Ils doivent choisir quelque chose que le monastère a fait pour eux dans leur enfance. Quelques temps avant qu'ils entrent comme novices. Et qui les lie au monastère aussi.
Ça, c'est pas très évident exactement ce que c'était à créer. Parce que comme tu peux pas aller au monastère à l'avance, tu vois.
Ça peut être un ami qui a été sauvé par le monastère avant.
D'accord.
Je crois que je vais augmenter le son de tous les micros en fait. Parce que
ouais, ouais. Oh non, oh connard. Oh non, ça c'est vraiment. T'es vraiment un gros connard. Tu m'as pété les oreilles. Quelle oh salopard de merde.
Pardon, désolé.
T'es vraiment un
mort de rire.
Et tous mes auditeurs te détestent. Tous nos auditeurs te détestent.
À chaque fois, de toute façon.
Mais oui, c'est clair en plus. Donc, je voulais vous demander, mais ok, on voit bien les pressions qui s'exercent sur les joueurs, la façon dont le système de résolution fait encore une fois peser la pression sur les personnages et sur les joueurs, mais ça ressemble à quoi la fiction de ce jeu ?
Je termine juste sur la fiche de perso, du coup, si tu permets.
Ah oui, pardon.
Voilà, un objet qui rappelle ça, et enfin un objet qui symbolise, enfin un outil qui symbolise le lieu où ils travaillent dans le monastère. Donc en l'occurrence, moi j'avais imposé que ce soit au dispensaire.
Ok.
L'infirmerie, quoi. Mais en campagne, ce serait à eux de choisir communément un endroit pour tous, où tous, en fait, travaillent au même endroit.
D'accord.
Donc c'est une façon de jeter un sort de groupe en quelque sorte.
Un sort de groupe. Donc voilà, je répète ma question. Hein, à quoi ressemble la fiction d'une partie ? Parce que ça, en fait, j'ai l'impression que c'est ben, je suis dans ma chambre, je me flagelle, ben, je prie. Alors, essaye.
Surtout pas, le temps passé dans la chambre est très minime, puisqu'ils sont à peu près 46 messes par jour, déjà, de base.
Non, pas 40. Pas...
Non, seulement 2,
3, 4, 5,
non, en fait,
6,
la journée d'un moine est rythmée par les messes. Et en fait, petit système de jeu qui est assez fun, c'est qu'il y a 12 messes, et en fait, le MJ a un D12 posé au milieu de la table, d'accord. Et les messes sont les unités de temps. Puisque le premier scénario, si j'ai bien compris, doit se passer en une semaine, le temps du noviciat, en fait.
D'accord.
Donc chaque jour, chaque fois qu'il y a une messe qui passe, on
retourne le dé, voilà.
Voilà. Donc ce qui nous permet aussi de
savoir quelle heure il est.
Voilà,
tout
savoir
simplement.
Quelle heure il est, où on s'en situe dans la fiction. Enfin voilà, bref. Et donc, entre toutes les messes, on a des petits moments où on travaille, donc on peut quand même vaquer un peu à différentes choses, se balader un peu dans le monastère. On a des moments où on a le droit de papoter, en l'occurrence avant le repas du soir ou pendant la pause de repas du soir.
Pendant le repas, on se tait, c'est ça ?
Pendant le repas, on peut papoter discrètement et on a un petit temps où on peut parler après le repas, si bien compris, et avant d'aller voir l'abbesse, qui clôt... la journée, et aller voir la baisse, en fait, c'est avoir son petit moment privé avec le MJ, grosso modo.
C'est le confessionnal, quoi.
C'est ça, un petit peu, oui. Je sais pas, Natacha, tu nous parlais du moment avec la baisse.
C'est ça. Ouais. Ah ouais, on en reparlera peut-être après, parce que c'est un des moments, je pense, problématiques du jeu, enfin, en tout cas, de mon point de vue, mais voilà.
D'accord.
Ben, voilà. Et donc, la première journée, on découvre, on nous présente les frères et sœurs qu'on va être amenés à voir régulièrement. Et puis après, vaille que vaille, la fiction se lance.
D'accord. Donc le premier jour, on va dire, c'est juste pour fixer le nom des messes. Je me souviens, on avait fait ça. On avait fixé le nom des messes.
C'est un tutoriel, quoi.
Ouais, voilà, expliquer comment ça marche, comment le jour passe, en fait, tout simplement. Ok. Et ça permet de fixer comme ça une règle. Après, on y revient régulièrement, Natacha, ou c'est juste pour le premier jour, se dire, ok, on est dans ce contexte-là.
J'ai rien fait intervenir pour l'instant pendant les messes, mais il peut y avoir des choses qui peuvent se passer.
D'accord. Alors, ça ressemble à quoi, une fois ceci présenté, c'est quoi une péripétie, en fait, du Rosaire Incarnate ?
Il y a quelqu'un qui se fait tuer, il y a le démon qui apparaît au réfectoire, enfin qu'est-ce qui se passe quoi ?
Un vieux paysan purulent qui est amené à l'infirmerie et avec couvert de boutons d'une origine inconnue et qui délire dans sa fièvre en disant que c'est à cause de l'intervention d'une sorcière. Là, je pense que Fabien peut peut-être reprendre.
En fait, Fabien. Bénédicte, donc le personnage auquel j'étais attaché, mon père, enfin mon père, P-A-I-R, bien sûr. Mm-hmm. Et non pas je suis ton père, était
accusé de sorcellerie.
Les auditeurs n'entendent pas. Et
Adrien,
ils sont contents.
Quand il n'a pas de micro, il parle. Quand il en a un, il me crie dans les oreilles. C'est un podcasteur idéal.
Oui,
quoi.
Mais sinon, il s'endort et moi, j'ai besoin qu'il soit réveillé.
Pardon, je m'endors pas. Hein. Juste, j'écoute. Enfin,
j'écoute.
Sois
donc,
silencieux et calme.
Bénédicte était accusé de sorcellerie. C'est là que je suis sorti du monastère pour aller calmer les choses.
D'accord. Ouais. Parce que ça commençait à s'emballer, les prêtres commençaient à dire.
Ils étaient devant sa porte pour la cramer, quoi.
Ah oui, carrément.
Ah ouais.
Parce que lui, il était accusé de sorcellerie.
Non, Bénédicte. Elle. Okay. Bénédicte est un nom de femme.
Oui, ça dépend dans quel univers, mais je vais pas détailler ça.
D'accord.
C'est un peu comme Céline, quoi.
C'est ça. Bénédicte, je suis désolé, mais dans Ambre, c'est un gars.
Oui, mais enfin, dans Ambre, ça peut être un prénom. Enfin,
oui,
avec
bon,
un
bah, bref.
Ça peut être un prénom.
Je suis d'accord avec toi.
Et donc, il y a eu ça. Donc, ensuite, il y a eu le coup du paysan purulent. Le soir, on a parlé à l'abbesse, on est allé au confessionnal.
D'accord.
Et pendant la nuit, le personnage à Yosei s'est promené dans les couloirs en somnambulant.
D'accord.
Voilà, une crise de somnambulisme au Moyen-Âge où on ne sait pas ce que c'est, tu te réveilles en sueur, tu n'es plus dans ton lit, tu es au milieu du couvent, tu flippes un peu quand même.
Et donc moi, j'ai perdu mon point de pureté parce que j'avais enfreint une règle. J'en ai parlé à l'abbesse, ouais, j'ai tout déballé.
Et l'abbesse, il me semble qu'elle peut. Il y a une histoire que si tu lui dis des trucs, tu regagnes des points, non? Il n'y avait pas ça, Natacha? Je me trompe.
Oui, alors sauf que du coup, avec les dernières modifications de règles, en fait, j'avais complètement zappé ce moment-là et je me suis rappelé qu'il y avait ça aussi. Et du coup, c'est encore un peu flou dans ma tête de comment ça va se passer.
Ça n'a pas été pété.
Et ensuite, on a arrêté.
De quoi? C'est
et
tout
et ensuite, on a arrêté, oui.
On a passé du temps sur.
Remarque, oui, vous avez passé du temps sur la création de
voilà,
perso et les pères.
Ouais. Et tard et.
Et je pense qu'il y a aussi un truc sur lequel on a passé beaucoup de temps, c'est la présentation en fait
du monastère. Ouais. Ouais. Oui, parce que je me souviens que Natacha avait bien bossé, qu'il y avait toutes les noms des prières à retenir, les vêpres, les vespinales, enfin, je sais plus.
Alors
quoi,
à retenir, enfin
à...
voilà. Non, et puis j'ai dit à Yosei pendant la partie, je ne ferai jamais. Enfin, je ne ferai jamais péché par ignorance de la règle chrétienne.
Je ne ferai jamais péché par ignorance.
Enfin, voilà.
Elle est géniale.
si un joueur oublie qu'il faut aller à Vêpres, voilà, parce que c'est l'heure. Enfin, bref.
Ouais, les Vêpres, encore, c'est celles qui sont les plus connues, je trouve. Mais il y en a
oui,
d'autres.
Je, voilà, oh. Oui, ils confondent.
Elles ont presque des noms de trucs dans la poésie.
S'ils se trompent dans la prière du Notre Père, qui, de toute façon, je pense, ne retentira jamais de cette manière entière. Dans le couvent, en tout cas dans la fiction, je ne ferai pas flagelle en place publique. Quoi.
Alors, les temps forts.
Le coup du comment
qu'est-ce qui se
passe
Fabien.
Du moment avec l'abbesse, tu disais que tu trouvais que ça posait problème. Moi, je trouvais que c'était vachement cool. Que c'était cool parce que, en fait, en tant que joueur, ça te permet de discuter un peu du niveau d'interdit. Par exemple, à un moment, quand Bénédicte est venue me voir, me dit « Hey, je suis accusé de sorcellerie, ça te dirait pas de venir me donner un coup de main ?» Moi, au début, j'étais tenté de me dire « Bon, ben, je vais prier pour toi. » Et Natacha m'a dit « Non, tu peux sortir, c'est une transgression, mais pas une transgression majeure. » Et donc, le fait de pouvoir en discuter après avec l'abbesse dans la fiction permet aussi de
justifier,
de fixer, de négocier ça. Il y a eu un échange intéressant avec Yosei et Manu, mais en particulier Yosei, parce qu'elle allait poser la question après à l'abbesse, en disant « Mais ok, c'est une transgression mineure de se tirer du couvent. » mais enfin, si c'est pour aller aider quelqu'un, c'est quoi la position du couvent, etc., etc.
Mais attends, là, je suis en train de penser à un truc, mais ton couvent, là, enfin ton monastère là, il est mixte. Il y a des femmes et des hommes dedans.
Oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand j'ai parlé de l'univers que je prends des libertés bien sûr avec l'univers médiéval. C'est un univers moyenâgeux et pas médiéval.
Il faut comprendre que si c'était un JDR de la boîte à JDR, ce serait un JDR Cato Fantasy.
Oui.
Donc avec des moines et des moines.
Voilà.
Donc, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'est important quand même à préciser parce qu'on sera du coup tenté.
Voilà, donc je prends des libertés et je tranche souvent de manière à rendre l'application de la morale plus difficile.
Et donc, pourquoi le moment avec la baisse, tu trouvais que ça posait problème,
Fabien?
J'ai du mal à savoir comment ça vous fait regagner ou non des points de pureté et...
Des dernières modifications, en fait, il n'y en avait plus besoin, vu que ça se regagnait quand tu faisais des actions, si oui ou non tu...
Bon, enfin, voilà. Donc, du coup, je me demandais l'intérêt de la baisse.
À mon avis,
tu viens de m'expliquer.
C'est juste
et ouais. Du coup, ça veut dire que il faut vraiment que... Là, je n'ai pas posé le silence complet, parce que j'avais encore dans l'idée que vous pouviez pas intervenir dans l'entretien, mais avec moi, à MJ, pour dire, bah, là, quand même, ce PJ pêche par leur orgueil. Parce que les autres PJ peuvent aussi souligner les péchés de leur...
De leurs camarades,
si jamais moi ils trouvent que je suis trop indulgente.
Et l'avantage de ça aussi, c'est que bon, si t'as rien à dire à la baisse, tu dis bon, ben voilà, je vais voir la baisse, je lui dis bonjour et puis je me taille quoi. Enfin, toi, si t'as pas besoin de. Et en même temps, le MJ peut te poser des questions sur ton personnage. Enfin,
c'est une occasion aussi de donner ses sentiments, peut-être même sur la partie de faire du méta un peu.
Exactement, de commenter la partie, de donner un jugement.
Faire de l'approbation
sur ton personnage ou sur les autres. Ah, comme tu parlais à maman Yostei de la les réalités du confessionnal où ils viennent cracher les uns sur les autres, c'est aussi ce genre de choses.
Moi, ça m'avait fait penser à Patient 13. C'est-à-dire que dans Patient 13, régulièrement dans les parties, les patients peuvent être amenés devant leur médecin.
Le docteur.
Exactement. Et donc là, mécaniquement, ça a rarement un intérêt mécanique, ça a rarement un intérêt même dans la fiction. Enfin, dans l'enquête ou le scénar à proprement parler, autre que venir remettre un petit coup de pression, peut-être que le médecin va donner 2-3 pilules qui vont un peu te faire halluciner ou te donner un prétexte. En fait, venir faire travailler un petit peu ton personnage sur ça, quoi. Sur est-ce qu'il est malade ou pas, est-ce que...
Tu passes à la doctoresse à côté de toi.
Ouais, non, dans Patient 13, l'objectif, c'est vraiment d'enfoncer encore plus le perso quand il commence à aller un peu trop bien, cette visite-là. Moi, ça m'a plus fait penser, justement, j'avais une question par rapport à ça,
Emmanuel.
Plus à la scène de fin de Miles Christie, où tu es plutôt... Et en fait, je me demandais...
J'y pensais aussi, mais méfie-toi, parce que dans la scène de Miles Christie, il y a plein de choses qui sont en jeu, liées au jet de dés précédent, à la façon dont tu as optimisé tes... pas au jet de dés, aux cartes que tu as utilisées. Enfin, je te jure, c'est abyssal. Enfin, ça a l'air assez plus simple dans le Rosaire et Carnet.
La réflexion que ça me soulevait, merci, laisse-moi parler enfin, c'est comment est-ce que tu vas empêcher... parce qu'il n'y a aucun moment en fait, où tu dis que vraiment nos persos doivent être soudés. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait un moment où ça parte en dénonciation, voire en dénonciation abusive?
J'ai la réponse, je peux Natacha.
J'essaye.
C'est qu'en fait, Natacha, elle avait précisé que si on voulait passer au cran d'après, elle l'a précisé au début, il faut qu'on ait au moins un en pureté de l'âme. Sauf que ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il faut qu'on ait tous au moins un en pureté de l'âme. Donc ça ne sert à rien d'enfoncer tes potes pour le plaisir. Ouais, je trouve que même que le fait, comme tu disais Natacha, que de pouvoir faire remarquer Abbès, il a fait ça, je trouve que c'est pas nécessaire en fait. Enfin, pour moi, mon ressenti, l'Abbès, il faut vraiment que tu le gardes comme un espèce de guide spirituel ou peut-être de remise aussi à niveau, parce qu'il faut savoir que pardon, je suis désolée, je trouve.
Non, mais tant mieux.
Jouer dans un monastère, c'est hyper dur pour quelqu'un qui n'a pas les limites catholiques, voilà et tout. Moi, jouer dans un monastère, pour moi, ça a été un peu. J'étais là, nom de Dieu, ou je sais pas quoi. Enfin, ça se fait pas, quoi. Donc,
ma sœur, tu
donc,
jures.
En même temps, voilà, l'abbesse, comme disait Fabien, ça nous permet de connaître un peu aussi les limites acceptées ou pas pour le personnage, son champ d'action. Et c'est une référence dont on a besoin. Il n'y a pas besoin de jugement de valeur. Je trouve que les jugements de valeurs sont équilibrées dans le jeu en eux-mêmes, rattraper des points, en perdre et tout. Et la baisse a un autre rôle pour moi en tout cas.
Très bien. Natacha.
J'ai perdu ce que je voulais dire.
Emmanuel, t'avais quelque chose à ajouter?
C'est ma fin. Alors, donc on était sur la baisse. Oui, bon, ça me reviendra.
Mais oui.
Moi, je...
D'accord. Non. Un grand moment de podcast.
Oui, elle a un rôle.
Ah, c'est bon,
la Bess a un rôle de guide spirituel. Je la vois aussi un peu comme une tentatrice, puisque la Bess, c'est moi, MJ.
Oui. Donc. Ah. Oui, moi, je me souvenais de ça, en fait. Qu'elle était, qu'elle pouvait te pousser à la violence parfois, en fait. Moi, je me souviens que Natacha en Abbess, parfois, elle était un petit peu diabolique, quoi, ou presque. Donc Yosei vient de se faire peur. Qu'est-ce qui se passe ?
Il y a son mec, c'est normal.
C'est vraiment le podcast du chaos 2. Ouais.
Non mais c'est bien, parce qu'on est quand même assez sérieux par ça. Fabien, tu voulais ajouter
Alors,
quelque chose ?
Alors moi, j'ai un debriefing un peu plus vaste à te proposer.
Si Emmanuel veut ajouter un point.
Une dernière remarque là-dessus.
Avant
ouais,
qu'on
parte. C'est pareil, du coup, savoir moi là sur la dernière fois que j'ai vu la baisse, j'étais un peu perdue sur dans quelle mesure, parce que dans les faits, dans les actes, j'avais pas beaucoup participé au problème, juste retransmis l'information que les villageois parlaient de ça. Et du coup, je savais pas trop jusqu'à quel point je devais m'impliquer, argumenter par rapport au problème de mes camarades, alors que dans les actes, j'étais pas
c'est aussi
là-dedans.
Par rapport à ta scène que ça m'a paru problématique ce moment, mais en fait, c'est parce que.
Est-ce que vous pourriez préciser un peu, parce que je comprends pas.
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé
concrètement,
exactement?
Concrètement, mon rôle à moi par rapport à l'histoire de cette jeune femme enceinte, ça a été juste de soigner le villageois qui est venu en disant si je suis malade, c'est la fausse.
Voilà,
c'est
Emmanuel
la faute
a été moins
sincère.
Impliqué dans les enjeux en fait.
Et mon rôle s'est limité à prévenir le personnage de Fabien. Que,
et c'est tout quoi.
Voilà, qu'il y avait un souci et puis à en discuter avec eux. Mais à aucun moment je me suis impliquée en prônant quelque chose auprès d'autres gens.
D'accord.
Et donc du coup, je savais pas trop quoi dire à la baisse. Si je devais lui dire, je suis d'accord avec eux, donc est-ce qu'en soi c'est un péché ou quoi? Ou au contraire, non, moi, dans mes actes, je me pose des questions, mais dans mes actes, il s'est rien passé. Enfin, c'est vrai que savoir jusqu'à quel point on va échanger avec elle, etc. Après, j'imagine qu'au fur et à mesure des séances avec elle, ça se débloque.
Là, je pense que ce sera un conseil peut-être à donner au MJ, du coup, de poser les questions qui peuvent mener l'entretien quand il y a justement un personnage un peu moins impliqué dans les enjeux, comme ça.
Fabien, Yosei, puis ensuite.
En même temps, techniquement parlant, moi, j'ai pas été plus impliquée que ça par l'intrigue en elle-même, puisque j'allais laver des bandages, j'ai juste entendu quelques éclats de voix, enfin bref, voilà. Et moi, ce qui m'a impliquée, c'est un peu l'enjeu moral, enfin, tout simplement, enfin, la question que ça pose, de dire y a une gamine de 20 ans qui a failli se faire cramer parce qu'elle a donné une tisane pour soulager la douleur d'une femme enceinte. Enfin, l'implication, elle se fait directe.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans les pensées, en fait.
Voilà.
Tu sais que, ouais.
J'ai pas eu besoin de participer à l'action, quoi.
Dans Umberto Eco, il y a des personnages qui se flagellent uniquement parce qu'ils ont eu des mauvaises pensées, tu vois. Enfin.
Et moi, cette implication-là m'a fait penser justement à Toxins of Vainard, qu'on disait là. Enfin, je sais pas, ce village où il se passe des trucs. Enfin, je trouvais ça bien.
Allez.
Ceci, je suis pas sûre que ma vieille pétasse qui essaie de pourrir la vie de sa fille. Avait vraiment une position, la même position que vous par rapport aux douleurs de l'enfantement. Je pense que.
Oui, c'est clair. Après, ouais. C'est
beaucoup de questions et de problèmes par rapport à ça, mais je pense que ça se débloque au fur et à mesure.
C'est pareil, on n'a pas joué si longtemps que ça. Puis...
Et tu finis de parler en dehors du micro.
Je parle en dehors du micro.
Oh, voilà, et puis ça.
Ça.
Oui.
Genre, parce que là, vraiment, pour les auditeurs, c'est génial. Je te jure. C'est... Alors, voilà.
Et toi, là, ça s'éloigne.
Non, je voulais.
Effectivement,
dire,
l'application est au maximum.
Je voulais. Décidément, je fais que des catastrophes en plus. Je voulais répondre aussi à ce que disait Manu tout à l'heure. Après, c'est un peu. Peut-être ne pas être roleplay, enfin je sais pas, mais c'est vrai que la première fois qu'on voit la baisse, on sait pas trop ce qu'on peut lui dire comme ça, mais en même temps, le pire qu'on ait à perdre, je pense, en tout cas j'espère, c'est un point de pureté d'âme, on en a 7 pour commencer, ça peut peut-être valoir le coup justement de faire un crash test avec la baisse et de dire, de tester ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire, ça fait aussi partie du jeu quoi.
C'est possible, voilà. Je sais pas. Je sais pas me le souvenir. C'est pas le souvenir que j'en ai.
Non, parce que vous démarriez à zéro pureté, il fallait les gagner.
D'accord, ok.
Fabien, tu voulais embrayer sur.
Alors ouais, j'ai pas mal de trucs à apporter. Je pense qu'il ouais voilà, il y a une difficulté un peu de la partie, mais c'était inévitable, c'est qu'il y a une grosse partie de présentation du monastère et que alors je sais que ça va te faire un peu hurler, mais je pense que ton jeu ne se prête pas vraiment au one shot, mais plutôt à la campagne.
Bah, sans blague.
Oui, je sais, mais je sais prévu.
D'accord.
Hein.
Enfin, ok. Donc ça vraiment, je pense que c'est une mais cette densité, on sent vraiment, vraiment cette densité. Et donc, ton projet a vraiment avancé de plein de façons différentes, très agréables. Et je pense notamment à cette densité-là, où j'ai l'impression que, tu vois, c'est encore plus, comment dire, ça a de la chair.
Il y a de la profondeur.
Profondeur, ouais, si tu veux. Alors, moi, j'aurais deux suggestions de créateur à créatrice, c'est-à-dire si j'étais dans ta position, il y aurait deux pistes, je pense, à envisager. La première, c'est là, tu me diras si c'est le cas ou pas, les dilemmes que tu amenais, c'était des dilemmes que tu créais à la volée à partir des personnages.
Alors, le coup de la stupisation de sorcellerie, c'était oui. Prévu à l'avance.
D'accord.
Et par hasard, il s'était trouvé que tu avais choisi de faire ce personnage-là. Mais c'est parmi les dilemmes, enfin voilà, j'en avais prévu un, donc une sage-femme accusée de sorcellerie. Du coup.
Tombait bien.
Et donc, bah, du coup, j'ai fait en sorte que ce soit ta paire, parce que forcément, la seule chose qui est improvisé, c'est un peu à la manière de Bienvenue à Poudlard, tu vois, de Frédéric Sintès. Je m'arrange pour que les personnages soient liés aux enjeux de l'intrigue.
D'accord.
Voilà. Et donc que les
d'accord.
Les PNJ liés aux personnages soient impliqués dans les dans
bien
les,
sûr.
Dans les...
Alors
Fabien.
Ok. Je t'invite à y réfléchir, à toi de voir ce que t'en fais. Peut-être à créer une situation, à préparer une situation de crise plus vaste. Qui entoure le monastère, si tu veux, qui lie tous les problèmes d'une certaine manière les uns aux autres. Histoire que, en tant que joueur, on n'ait pas l'impression de dire bon ben, j'attends mon prochain dilemme, je vais voir comment je réagis, et puis ensuite je continue. Tu vois ce que je veux dire ? S'il y a une situation de crise plus générale, ça donne.
Des exemples, parce que j'ai.
J'ai
un vrai problème d'enjeu en fait sur ce jeu, donc.
Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Ben, si on reprend l'histoire de la sorcellerie, plutôt qu'une accusation unique de sorcellerie, on peut imaginer que dans le village, il y a un prédicateur, un démonologue qui soit arrivé et qu'il accuse systématiquement énormément de femmes du village, comme ça c'est fait souvent au 16e.
Bernardo Guy.
Au XVIe siècle, voilà, un inquisiteur, tu peux voir les choses comme ça. Les inquisiteurs, c'était plus des hérétiques. Enfin bon, bref, toujours est-il, tu vois, et que, ou d'autres manières, ou c'est la famine au village, ou il y a des réfugiés d'une guerre qui viennent s'installer au village. Enfin, il y a plein de grandes situations de crise, et qu'à chaque fois, ça vient troubler d'une certaine manière
la paix du
monastère. C'est une suggestion, c'est simplement pour relier plus et donner plus de cohérence au dilemme.
Un peu. Je peux.
Et impliquer tout le monde. Indirectement.
Et impliquer tout le monde les uns aux autres, tu vois.
Ouais.
Ah, je te pose la question, un peu comme une série, alors c'est un rapprochement un peu simple, mais une série où tu as des petites intrigues par épisode, mais tu as un arc narratif
pourquoi
derrière
pas, ouais.
Qui prend toute la saison et qui. On se rend compte peut-être même à la fin qu'il y avait des rapports entre les choses qui nous semblaient simples. Et c'est
mais pour bien préciser, je dirais que ce que je suggère à Natacha, c'est pas de créer un arc narratif qu'elle prévoit à l'avance, mais plus exactement une situation de crise qui va interroger la position des joueurs à chaque fois. Tu vois, c'est la différence entre scénario et partage d'autorité, enfin canevas.
Ce qui est intéressant aussi avec ta proposition, Fabien, c'est qu'en fait, si tu réfléchis, Natacha, à faire que systématiquement les problèmes surviennent de l'extérieur, ça vient remettre en question l'aspect monde clos du monastère qui se rêve en monde clos, qui pourtant a des interactions avec ce village. Il aimerait qu'à défaut que le monastère soit un monde clos, qu'au moins le monastère plus le village soit un monde clos et que malgré tout, il y ait toujours quelque chose qui rentre.
Ouais. Est-ce qu'il y a le cas en plus, tu vois, c'est ça aussi.
Le cas, bien sûr. L'isolement qu'il recherche,
il
y a le monde extérieur qui essaye de rentrer tout le temps.
Et tu vois, ce qui est cool dans Dogs in the Vineyard, par exemple, que tu citais en inspiration, c'est que tes dilemmes précédents
informe le dilemme actuel, parce qu'ils sont reliés les uns aux autres. Il y a un peu la même chose dans, si tu prends plutôt une approche par situation de crise, où d'une certaine manière, c'est humain, hein, on cherche toujours à avoir une certaine cohérence, même si on n'y arrive souvent pas, mais dans les choix qu'on fait, donc si tu veux, d'une certaine manière, la continuité donne de la force et une certaine résonance en fait, au dilemme les uns aux autres. Okay. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est très marrant que tu parles de Bienvenue à Poudlard, parce que vraiment, en fait, j'ai eu l'impression, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant qu'elle réfléchisse à son jeu par rapport à Poudlard. Parce qu'il y a vraiment eu des moments où j'ai failli faire... Je veux dire, c'est le même... En sociologie, des organisations comme ça, c'est ce qu'on appelle les organisations disciplinaires ou totales, tu vois, dans lesquelles tous les aspects de ta vie sont pris en charge. Et Poudlard, où tu habites là-dedans, et tout le temps, on te dit quoi.
Oh, voyons, Fabien.
Qu'est-ce qu'il y a ?
En fait, t'as vraiment prononcé « t'habites là-dedans ».
Ah, je te jure, Poudlard où t'habites là-dedans, c'est... Ah si.
T'as accentué comme il fallait, disons.
C'était...
Accidentel.
Oui, non, c'était complètement accidentel. Mais en plus, je te jure, ça le fait bien.
Donc,
ça
dans lequel bien. Tu résides en permanence.
Ah, tout à fait.
Tu dors dans ces lieux.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, il faut préciser qu'on a fait un nombre de blagues sur le cul
bah oui.
Durant la partie qui était
voilà, je leur ai dit que les cierges allaient servir, c'était des objets longs qui servaient à s'élever.
Ça grandit, ça rapetisse, il y a le petit filet de cire qui coule.
Mon Dieu. Ça me rappelle une blague que j'adore.
Oh mon Dieu.
Je vais raconter une blague Dieu. À la cellule.
Fuyez.
Tu la connais. La première fois qu'on fait ça, non
fuyez, tu la connais fuyez. Tu la connais. C'est le l'abbé qui arrive devant si les sœurs et qui dit donc ce soir mesdames, il y aura des carottes. Ouais, râpées. Oh.
Elles répondent pas ratées.
Bon, donc Poudlard.
Oui, t'as rien à voir. Oh putain, on a rien à voir.
Si tu veux Poudlard. Oui, dans Poudlard, comme dans le monastère, c'est des organisations totales, des organisations disciplinaires. Et c'est des organisations dans lesquelles on passe son temps à enfreindre les règles.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Dans Harry Potter, il y a des
règles. C'est aussi parce que dans Harry Potter, c'est des Gryffondors et que les Gryffondors passent leur temps à enfreindre les règles.
C'est un secret, donc naturellement. Tout le monde est au courant.
Voilà.
Oui, pardon. Oui, je pensais à Harry Potter, mais pas. Oui, dans Bienvenue à Poudlard. Ouais, c'est pas seulement des cerfs d'aigle.
Je pense que tu peux vraiment réfléchir et échanger avec Fred autour de comment il a écrit Bienvenue à Poudlard, parce que justement, bon, un truc que j'en avais déjà parlé, mais dans Bienvenue à Poudlard, il racontait que ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu peux tout à fait imposer certains moments, certaines scènes aux joueurs. Parce qu'il y a des moments où, fictionnellement, ça se justifie. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que c'est que tu forces la main du personnage ou que tu enlèves...
C'est l'heure d'aller en cours de potion, c'est l'heure d'aller à vêpres.
Voilà, et pendant les vêpres ou le cours de potion, il peut se passer un truc que toi, tu as prévu à tel endroit, qui est scénarisé, comme on en parlait. Et donc, ça permet de réconcilier le scénar à l'ancienne avec le truc impossible avant le petit déjeuner. Et la cohérence fictionnelle, c'est-à-dire que les personnages continuent à rester protagonistes de leur histoire. Donc voilà, je pense que tu pourrais peut-être gagner à réfléchir dans ce sens-là, tu vois, et éventuellement à dire bon ben voilà, à jour temps, à telle heure, il se passe tel truc, et ça te permet en plus d'apporter des révélations de ton jeu à secret, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, il y a certainement des structures à réfléchir dans les deux jeux. Voilà. Okay. J'ai encore un truc et après je peux me mettre en mode off.
Oui, on le connaît, le mode off. Je m'endors sur la table, le micro dans la barbe.
Après, moi, je pourrais terminer en concluant. Enfin, en concluant, j'en sais rien, mais en tout cas, je pourrais parler de...
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, j'allais dire, laisse-le parler. Il avait encore des trucs à dire, Fabien.
Enfin, j'ai aussi encore des problèmes.
Oui, non, mais t'inquiète. D'accord.
Le dernier truc, la dernière réflexion que je me suis faite, c'est... Il y a un truc que tu n'exploites pas assez dans ton jeu et qui serait génial. Il faut que tu acceptes que ça va être un jeu avec des cérémonies, quoi. qu'il y a des moments où tu vas te mettre à prier, où tu vas te mettre à décrire des trucs barges, où tu vas te mettre à lire. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Il se passe un truc de ouf.
On a entendu un bruit,
genre c'était
genre.
Ça, c'est pas d'où ça vient.
Mais ça a duré genre. Aussi deux...
Oui.
Mais non, c'est un jouet de. Je crois que c'est un jouet de.
De Nami?
Non, Anaïs.
D'Anaïs.
Qui fait coin-coin.
D'accord.
Bon alors, je reprends pour les deux du fond. Ça vous intéresse pas ce que je dis? Ça vous intéresse pas ce que je dis? Voilà, je reprends pour les deux du fond.
Non mais désolé Natacha, c'est une horreur. Ils sont insupportables.
Ça nous aide à tenir réveillés, moi, c'est ça qui.
Je reprends pour les deux du fond, donc je pense que c'est un jeu dans lequel tu pourrais envisager d'avoir des cérémonies, d'avoir des prières, d'avoir des phrases clés de prières, de répéter tout le temps. Tu sais, dans enfin une des forces, je trouve, de sens, c'est d'avoir pas mal de mèmes du genre.
Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer.
Voilà, tu vois. Immédiatement, tu as su de quoi je voulais parler. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça, hein, de trucs qui reviennent tout le temps. Il y a d'autres jeux qui arrivent à faire ça.
En gros, tu voudrais que Natacha transforme son jeu en une sorte de culte sectaire où,
Non, mais
sérieusement, c'est-à-dire, par exemple, la première prière, il y aurait une phrase rituelle que tous les joueurs devraient prononcer.
Oui, par exemple.
En fait, ritualiser lourdement pour faire une ambiance pesante.
Truc sectaire ou pesant, pas forcément, si tu veux.
Cérémonial, quoi.
Mais cérémonial, oui. Moi, j'ai passé beaucoup.
Il n'y a plus assez de micros dans ces podcasts.
C'est le principe de la religion catholique, oui. Le truc sectaire. Mais
la ritualisation fait partie du sacré.
Je n'assume pas ce genre de remarques.
J'ai fait des retraites à la fois dans des monastères catholiques et dans des monastères bouddhistes. Et
il bouffe atelier à atelier. Il veut être sûr d'avoir son paradis.
et je suis athée en plus, hein, histoire d'être
sûr. Le mec, il est athée, il va chez les cathos.
Et si tu veux, la répétition, la ritualisation, le fait de répéter des phrases, il y a des phrases que tu apprends par cœur, pas parce que tu les apprends par cœur, mais parce que quand tu les as répétées plusieurs fois par jour régulièrement, tu les connais. Tu vois. Et je pense que ça, ce serait vraiment un truc en plus, tu vois, un peu à la Polaris que tu peux recréer dans ton. Parce que c'est des trucs qui passent par la langue. Je te demande pas de t'habiller dans une grande capuche rouge et puis, tu vois, d'allumer des cierges. Encore que dans la Polaris, on allume une bougie au milieu de la table.
J'ai peur du feu, mais.
D'accord, ou autre chose.
J'ai peur du feu.
Mais...
Incroyable.
Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu peux exploiter dans ton. Il y a une piste, tu vois, un peu esthétique, mais qui en même temps apporterait une couleur intéressante au jeu que tu pourrais exploiter comme ça.
Comme par exemple, dans l'entretien avec la Besse, quand je t'ai demandé, je sais pas comment on termine ce genre de conversation, est-ce qu'il y a une phrase à dire, faut se signer.
On fait un bisou.
Je plus soi, ouais, j'ai tout à fait pensé à ça quand t'as dit ça.
En plus, ils s'embrassent, hein. Ils s'embrassent sur la bouche. Oui. Non, mais blague à part, il me semble qu'ils s'embrassent sur la bouche.
Oui, c'est une manière de transmettre la bénédiction.
L'amour de Dieu.
Voilà, c'est ça.
Le rosaire écarlate, le premier jeu où vous roulez des pelles toutes les 5
minutes. Ouais, c'est ça.
Alors,
et vous jouez des cathos, quoi.
Ouais, en même temps.
Non, mais tu vois.
Je vais que les fins de journée avec Natacha. Le bisou.
Et donc, tu dirais toujours la baisse ou la baise? Parce que
J'en étais sûr. J'étais sûr.
Pour un jeu qui est censé parler de spiritualité, je trouve qu'on parle quand même beaucoup de sexe.
Mais oui, mais c'est normal en fait. Ouais. Ton jeu, il pousse un petit peu. Et puis, plus tu entretiens les tabous, et plus tu.
Sinon, je vais terminer en disant que vraiment bravo, parce que j'avais déjà joué à des versions antérieures, tu m'en avais parlé, et je sais que c'était on a parlé même avant la partie tout à l'heure, et je sais pas.
Oui, la raison pour laquelle on enregistre ce podcast d'affilée et qu'on n'a pas joué entre-temps, c'est que je n'étais pas sûre en fait, que ce soit podcastable. Et
une partie du fou rire vient aussi de la nervosité que... tu avais, et je crois qu'on partageait aussi, parce qu'on avait envie que ton projet marche bien et nous plaise, mais je me suis pas forcé, quoi. En tout cas, j'avais pas assez d'énergie pour me forcer, donc c'est vraiment très cool que ton projet ait aussi bien avancé et voilà.
Ça m'a fait extrêmement plaisir que Emmanuel et Yosei, par exemple, propose de continuer la partie ou en tout cas de la poursuivre plus tard.
Et donc tu vois
on a même proposé de se lever demain matin pour pouvoir jouer
à 10h. Pas non plus
à l'heure des vigiles, à 3h du matin.
Vigiles, c'est ça que j'allais dire.
Vu l'heure qu'il est, les vigiles, elles arrivent très bientôt. Là, les
tu
matines,
m'as coupé l'herbe sous le pied. Enfin voilà, de toute façon, c'est un jeu sur la transgression. C'est exactement comme Théocalie de Simon et de Colline. C'est un jeu, en fait, à partir du moment où tu poses des tabous, en fait, et que tu les mets en plus sur la feuille de perso et tout, bah oui, c'est sûr, quoi, on va les briser et tout ça. Donc la meilleure manière de faire en sorte que les gens parlent de certaines choses, c'est souvent de les interdire. Et ça marche d'autant mieux avec les enfants. Et il y en a autour de cette
table. Pensez surtout pas à un rhinocéros bleu.
Viens d'y penser. Et j'ai perdu au jeu. Merci Fabien, merci. Hein.
Justement, donc.
Natacha.
Emmanuel, tu avais d'autres choses à rajouter?
Ouais, ceux qui ont un peu plus de culture ludique que moi confirmeront ou infirmeront, mais j'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment très très particulier, qui emprunte. Il y a la narration partagée, il y a le secret, mais il y a aussi un découpage en temps qui fait qu'on a presque un découpage en scène comme on peut retrouver chez certains jeux. Enfin, je trouve qu'il emprunte à beaucoup de choses et c'est vrai qu'on a envie de le creuser pour finir par en maîtriser tous les aspects. Et enfin, je le trouve vraiment très très atypique. Quoi. Ah ben c'est,
quand on participe à tous les one-shots de la cellule comme Natacha, qu'on est assidu comme Natacha, et ben voilà, on fait des jeux qui empruntent à tout le monde.
5 points pour Serdaigle,
exactement. Ah, bravo Serdaigle, bravo Serdaigle. Mais...
Et au fait, 4000 points pour Gryffondor pour avoir
fait de la merde dans les micros. Enfreint toutes les règles en vigueur. C'est plutôt les serpentards qui gagnent à ce petit jeu-là, mon Fabien. Voilà. Natacha.
Donc du coup, voilà, moi j'avais envie de revenir quand même sur mon principal problème de développement de ce jeu.
Ah oui.
Qui a fait que il s'est écoulé beaucoup de temps entre les deux derniers playtests. Parce que voilà, et qui me bloque encore et qui, je pense, pose encore quelques problèmes.
Tu veux parler d'Adrien, c'est ça?
Non, surtout pas. Non, justement, je peux même en profiter pour le remercier parce que c'est lui qui a débloqué le projet, en fait.
Bravo. Merci, voilà. Adrien.
Bravo, Adrien.
Plein de mécaniques très élégantes qui m'ont été soufflées par lui. Donc voilà, merci.
Ah bah oui. Si tu savais le nombre de mécaniques élégantes qui, dans ce sens, c'est dans Vademécom et dans tout ce que tu veux qui vient de Flavie. Ouais. C'est on en discute en permanence. On sait aussi que Maxime et Morgane jouent beaucoup à leurs jeux ensemble, discutent, etc. La force du couple aussi, on n'en parle pas assez, mais ce ne sont pas que des jeux d'auteur, les jeux des indépendants. Ce sont aussi des jeux qui se nourrissent de réflexions comme ça.
C'est la femme de Flavie, de ta vie. Pardon.
Il est tard. Hein, en tout cas, c'est pas comme ça que le pantard va gagner des points. Hein.
Je voulais un jeu de mots mignon, désolé.
La flamme de ta vie.
Oh, bon, il faut vraiment qu'on arrête. Allez, Natacha, tu disais quelque chose de très sérieux. Il reste encore des difficultés dans ce projet.
La difficulté, c'est que c'est un jeu qui encourage à ne rien faire. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à ce dernier playtest, qui encourageait à ne rien faire, puisqu'il encourage à résister à ses vanités, donc à ne pas agir et à ne pas agir en conflit. Et donc, il faut quand même que, du coup, j'arrive à trouver des enjeux suffisamment balèzes pour pousser les PJ à agir malgré tout. C'est aussi pour ça que du coup, la dernière fois qu'on avait joué, on m'avait suggéré, Adrien, je crois, c'était toi qui avais dit ça, au lieu de démarrer à zéro la pureté et de devoir gagner en pureté, de démarrer à 7 et d'en perdre et d'en regagner au fur et à mesure.
D'accord, ouais.
Et du coup, en ayant une valeur à avoir à la fin de la partie, par exemple, là, il faut qu'ils aient 1 à la fin de la partie pour passer au statut suivant dans le monastère. Vous savez qu'ils font, bon, j'ai 7, j'ai le droit de descendre jusqu'à 1. Bah ouais, je peux me lâcher un petit peu, quoi. J'ai une marge de manœuvre. Et puis si je gagne quelques points, je pourrais me lâcher encore plus.
D'ailleurs, micro remarque sur la dimension secrète, parce qu'on l'a pas tellement, on l'a même quasiment pas vu, la dimension secrète. On a bien compris que le monastère, il était un peu bizarre, parce qu'un monastère où on t'accueille avec une rose dans ta chambre, c'est un peu strange.
Surtout une rose qui est blanche avec un pétale rouge.
D'ailleurs, je comprends pas. Faudra que tu m'expliques après ça.
Mais
ça peut m'expliquer après.
Un truc qui m'a fait sentir le secret, en tout cas, il y a un novice. Novice, ça dure 7 jours d'ailleurs. Hein. C'est vraiment c'est l'antichambre de la vie de moine. Ensuite, t'as oblat, ensuite t'as convert, ensuite t'as frère ou sœur. Donc convert, le féminin, ce n'est pas converse. Hein.
Et ce ne sont pas toutes des stars.
Et j'ai réussi à tirer les vers du nez à un moine pour savoir que le stade au-dessus de frère, c'était saint. Il reste encore 2 stades que je suppose être les anges ou peut-être la baisse, enfin je sais pas trop. En tout cas, il doit y avoir quelque chose de...
Il n'y a pas les éveillés dedans?
Et à la fin, tu es immortel, oui, tout ça, tout voilà. à fait.
Et bon, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'en plus, on les voit de loin. Enfin, genre les seins, on les voit de loin. Ils parlent pas, ils sont. Enfin, et on sent, ça pue le secret. Il faut en choper un et puis le savater jusqu'à ce qu'il.
Ça, c'est de l'hermétisme pour le coup. Ouais.
Ça, c'est du hurlement.
Ah oui, ouais, à fond, ouais.
Tout à fait, exactement. Ça m'a fait penser à hurlement aussi.
C'est, ouais. c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé avec Natacha. C'est la notion des règles inscrites. On en avait parlé justement dans la précédente tentative de podcast qui n'avait jamais été diffusée.
Ouais.
C'était le fait que les règles soient inscrites et soient présentées et soient dites en plus. En fait, d'être des règles pour les joueurs et pour les personnages. Ça, c'est dans hurlement.
Dans hurlement, il y a la caravane, les fameuses règles de la caravane. Ouais.
Et donc là, c'est un élément qu'on a repris. Et effectivement, il y a une similitude aussi avec hurlement.
Ton micro, enfin, parle plus fort. Ou parle aussi, plus fort, au choix.
Il y a aussi une similitude avec hurlement sur la hiérarchie, on va dire. De la,
d'accord.
Non, en tout cas, ça me donne vraiment envie d'aller creuser, ouais, c'est clair.
Donc, ton problème, c'est ça, c'est le
voilà,
fait que...
Voilà, donc, du coup, en fait, plus ça va augmenter dans plus les joueurs vont augmenter dans la hiérarchie, plus ils vont être poussés à ne pas agir.
Mais s'ils font rien, ils gagnent pas de points dans tous les cas. C'est ça que je comprends pas. De son.
Bah, yen de la pureté, c'est ça qui est. C'est
en fait, la progression se fait à l'ancienneté. Si tu t'assieds dans un coin et que tu ne bouges pas.
Tu deviens oblat.
Tu deviens saint. Tu termines en étant. Donc, ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Mmh.
Alors, je compte en partie, mais je sais que c'est pas suffisant. Je compte en partie sur la fascination pour le couvent et les secrets,
oui.
pour pousser les PJ à chercher, à aller voir s'il y a pas des portes dérobées.
Et en gros, la grande raison d'être des pères,
Adrien.
C'est d'avoir des gens très proches qui sont hors du couvent, à qui va arriver des merdes et à qui tu vas devoir te bouger en fait.
Des liens sur lesquels taper.
Et s'ils étaient à l'intérieur du couvent, c'est pas possible. Moi, je me demande dans quelle mesure ça aurait été intéressant aussi que ce soit à l'intérieur du couvent et que
oui, des servants, et qu'il des servants laïcs qui bossent dans le couvent.
Et non, mais qui est juste un endroit, un soin, quoi, un dispensaire déjà.
Là, c'est là où vous avez travaillé.
Déjà,
là,
c'est là où on a travaillé. Et il y a aussi un parloir. Mais non, mais s'il y a des gens à l'intérieur, ça permet de parce que sinon, à chaque fois, tu dois dire bon ben. Je vais dans la forêt interdite, quoi. Comme dans tous les Harry Potter, ils vont dans la forêt interdite alors qu'ils savent que c'est interdit. Si la forêt interdite était à l'intérieur de Poudlard, ce serait peut-être plus pratique, quoi.
Yosei.
Après, est-ce que les liens à l'intérieur du monastère vont pas aussi se créer avec le temps? Parce qu'on a un lien à l'extérieur par personne, par personnage. On va peut-être pas les repasser en boucle et en boucle. On va peut-être toujours pas taper sur les mêmes. peut-être que les liens, ça permet d'avoir un premier contact et une première source de péripéties. Et puis les liens vont se faire dans le monastère au fur et à mesure.
Ouais.
Et peut-être, je pense, au fur et à mesure de la campagne, ça va se resserrer justement sur cette sensation de huis clos sur le monastère et sur les tranches qui va monter. Quoi.
Natacha ouais. plus soi, apparemment. Ouais,
elle empêche les deux.
L'importance du refermement du monde. Enfin, le refermement du monde a quand même une importance. Hein.
Mais cette histoire là dont on parlait effectivement sur devenir saint, ça se fait à l'ancienneté, je pense que ça valait effectivement la peine d'y réfléchir. Il
faudrait gagner un point, faudrait pouvoir gagner des points en agissant en fait.
Une solution peut-être c'est que...
Avec la baisse, que ce soit la baisse qui puisse te donner...
Si tu découvres
non, ça marche pas.
Sinon... Merde. Si tu découvres les secrets simplement en attendant...
Est-ce que à ce compte-là, ça tient pas plus du contrat social que du système aussi
Bah justement, c'est ce que je me demandais, tu vois. Jusqu'où est-ce qu'un mec va se dire « Ouais, trop cool, je vais venir à un jeu de rôle, je vais rien foutre, comme ça je vais optimiser. » Je crois que ça n'existe pas, un joueur comme ça.
Ça
enfin,
existe,
même pas ça. C'est
mais
pas
il
ça.
Fait un scénar et pas deux.
Non, mais même pas. Moi, j'ai souvenir la partie qu'on avait faite précédente de test, où en fait, mon personnage se retrouvait à ne pas avoir d'enjeu et...
Oui, d'accord.
Ou alors c'était des enjeux qui au bout d'un moment en fait c'est vrai que si tu par exemple je jouais un personnage qui était fondamentalement croyant et je voulais le jouer comme ça et donc ben on m'a dit prie pour tes proches ben là j'aurais prié tu vois je serais pas sorti du village j'aurais prié pour le père et c'est vrai que c'est compliqué enfin moi j'y vois c'est un des gros problèmes de ce jeu hein, effectivement et c'est un des
c'est pas un problème c'est une problématique c'est un enjeu il faut
c'est un défi
on va
c'est
trouver
un
défi de ton
un problème c'est pas un
c'est
non,
non, pas
mais
une voilà.
blessure mortelle quoi
voilà,
c'est il y a quelque chose à faire il y a du travail encore à faire mais c'est le gros chantier quoi
ouais c'est ça c'est chaud
mais il y en a dans tous les jeux
ouais absolument
L'autre truc aussi que j'ai vu,
c'est le problème impossible avant les vêpres, c'est ça?
C'est les matines, du coup, là, en l'occurrence. Du coup, oui, l'autre problème que j'ai vu là ce soir, ou que j'ai eu l'impression de voir ce soir, c'est que les jets de dés ont été réussis très facilement. J'ai pas eu la sensation.
Ouais, mais on a eu du pot, c'est tout.
D'accord.
Oui, c'est pas... Il y a des neufs qui sont sortis.
Donc, les mathématiciens, vous aurez pas.
Vous avez jeté combien de dés?
5.
C'est rien.
D'accord.
C'est rien.
Il n'y aura pas d'histoire de d'équilibrage à revoir.
Une partie. En fait, il faudrait que tu te rendes compte de combien tu jettes de dés par partie déjà.
D'accord.
En moyenne. Pour ajuster après le dé dont tu as besoin. Parce qu'en fait, si tu jettes peu de dés, il faudra que tu aies des succès difficiles à obtenir. Pour faudra peut-être que tu rehausses la difficulté pour avoir besoin plus souvent des,
alors
j'allais dire des fatalités, non des vanités. Mais par contre, si tu jettes plein de dés, en fait les situations se poseront plus naturellement, de les occasions viendront plus souvent.
Ok.
Là en fait c'est un dé qui te donne une chance sur deux, quoi.
Pour l'instant ouais.
Et comment tu fais pour augmenter ou diminuer cette chance? Est-ce que ça vaut le coup?
La difficulté de base passerait à 9, par exemple.
D'accord. Ouais.
Mais non, alors, mais au lieu de jeter un dé 12, tu jettes un dé 10.
C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que dans le jeu, il y a un mécanisme qui fait que tu peux...
Je me suis rendu compte que le dé 12, c'était très bien, en fait, parce qu'il y a 12 prières dans la journée.
Puis il y a 12 apôtres.
Ouais, c'est sûr. C'est élégant.
Juste une question. Les valeurs qui sont à côté des vanités... donc, moi, j'avais 2, 3 et 2. Il y a 7 points à répartir. Ça veut dire que statistiquement, il y a, par exemple, pour une vanité à 2, il y a 2 chances sur 12, une chance sur 6 qu'elle me soit utile. Indépendamment des histoires de fiction.
Non, hein, non, Fabien, parce qu'en fait, tu peux en utiliser plusieurs d'un coup.
Ah oui.
Ah bon,
oui. Ah, bon.
Bah, bien sûr.
Mais non, moi j'avais pas dit ça, mais j'avais pas dit ça ce soir, mais non, j'avais pas considéré ça.
Tu peux en utiliser autant que tu veux, en fait, d'un coup.
Ah, ok.
Alors ça coûte très cher parce que tu payes autant de points de pureté, mais.
Ah, ok, d'accord. Et alors, autre question, pourquoi il n'y a pas des valeurs à ce moment-là à côté des constances?
C'est-à-dire, parce qu'elles ne servent pas dans les résolutions de conflits. Elles ne servent pas à augmenter la valeur d'un jet.
Ah, ouais, alors là, j'ai quelque chose qui m'a échappé. C'est pas très grave, alors tant pis.
En gros, les constances, c'est si. En fait, le truc, c'est tu fais ton jet de dé. Ouais. Si tu réussis, bon, bah, tu décris ta réussite, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Si tu rates, mais qu'en utilisant une ou plusieurs de tes vanités, tu pourrais réussir, là, il y a deux situations qui se présentent. Soit tu utilises tes vanités pour réussir, donc tu perds de la pureté, tu forces la réussite. Soit tu choisis de ne pas tomber dans le péché, et donc tu peux gagner de la pureté. Si t'arrives si t'arrives à mettre en avant tes vanités, tes constances, en disant par exemple, je suis quelqu'un de sage.
Tu expliques,
et là,
tu expliques voilà. Fictionnellement pourquoi c'est tu ça. Perds, ok, c'est d'accord.
Ça. Okay. Et pourquoi tu renonces.
Non, pourquoi tu renonces à forcer la victoire.
D'accord, ça veut dire que les constances, il faut, pour pouvoir les utiliser, il faut non seulement que tu puisses utiliser une vanité, mais en plus que tu puisses utiliser ta constance fictionnellement.
C'est ça,
ok.
Ce qui se fait bien, ça paraît.
Sachant que si t'as pas de constance que tu peux utiliser sur le coup, tu peux en créer une, et comme ça, après, au bout d'un moment, t'as plein de constances. Et
entendu, pareil, quoi. Je vous laisse lever le problème, vous y avez répondu.
Très bien. Natacha, est-ce que tu avais d'autres problèmes dont tu voulais nous...
Ouais, de toute façon,
juste clairement, ce soir, vu l'état de fatigue et tout ça, je pense qu'on pourra pas t'aider sur ces questions.
Mais
honnêtement, moi, ça m'intéresserait d'y réfléchir avec
toi. Juste un petit point, tant qu'on était sur les chiffres. De toute façon, les questions statistiques, pour l'instant, c'est pas un problème. En
fait. Oui, non, on est d'accord.
C'est de l'ajustement, verra à la fin, une fois qu'on sait comment ça se passe.
Non, c'est clair.
Bon, mais c'est une question que je m'étais posée pendant la
Si jamais on se rend compte qu'une partie est trop simple, tu peux faire des rillettes vite fait pour ajuster à la volée. Et puis, à la fin, on verra les. Enfin, si tu veux, faut faire des statistiques. Sur quelques parties, voir un peu ce que ça donne, le ressenti, et ça c'est un truc qui se corrige facilement, hein. C'est vraiment, vraiment facile.
Oui, non, je posais la question, je pense, oui, je posais la question simplement pour éclaircir les choses.
Oui, c'était pas à propos de ce que tu disais. Ouais.
Très bien. Donc, encore une fois, moi je veux bien t'aider, mais là ce soir, bon.
Non, mais
bourré.
Pas de souci. Déjà, vous avez joué, vous avez
posé les
enregistré
questions,
avec moi.
Ça fait avancer des jeux aussi. Ouais,
et puis, ben voilà, je sais que.
Eh bien, merci. Natacha,
tu peux conclure.
Bien sûr.
Natacha, le seul moyen de toute façon de rééquilibrer des trucs, c'est de plus faire jouer les gens. Hein. Donc,
Demain matin. Hein.
On débarque chez toi la semaine prochaine et puis c'est parti.
Après les matines. Hein.
Pas de souci, hein. J'ai du temps la semaine prochaine.
Merci et bravo. Ouais.
Merci Natacha. Merci, Fabien. Enfin, carrément, on applaudit et tout, c'est la fête, là. C'est n'importe quoi, ce podcast. C'est un spectacle, ce podcast. C'est là. Donc, merci, Natacha. Merci, Yosei. Merci, Fabien. Merci, Emmanuel. Merci, Adrien. À très bientôt, tout le monde. Salut. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien.
Salut, ciao.